Bonjour, je m'appelle Cyrielle Bedu et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, qui est Taylor Swift ? La question semble surprenante tant cette chanteuse américaine, dont la carrière a débuté il y a près de 20 ans, est aujourd'hui connue dans le monde entier. Mais malgré son succès et les 14 Grammy Awards qu'elle a gagnés au cours de sa carrière, rares sont ceux qui connaissent vraiment son parcours. Elle poursuit actuellement l'une des tournées mondiales les plus rentables de l'histoire, avec des dates prévues en France à partir de ce 9 mai. Mais elle vient aussi de sortir son 11e opus, un double album inédit de 31 titres. Et c'est donc à l'occasion de ces deux actualités que nous allons retracer l'incroyable histoire de celle dont la moindre prise de position bouscule l'industrie musicale et aura peut-être une influence sur les prochaines élections présidentielles américaines. Aurélien Otonet est journaliste au service Culture du Monde. Il a consacré un long portrait à Taylor Swift. Il nous raconte les moments marquants de la carrière d'une star qui a mis du temps à conquérir la France. Taylor Swift, l'icône pop que personne n'attendait. Un épisode réalisé par Amandine Robillard.
On a choisi d'aller à Singapour pour des tas de raisons. D'une part, c'était les derniers concerts avant ceux qu'elle ferait en France ce printemps. Ça marquait donc la fin de sa grande tournée asiatique. Par ailleurs, il y avait un lien personnel de Taylor Swift avec cette ville, puisque sa mère a grandi à Singapour. Puis ça nous semblait quand même très intéressant de voir comment un public, a priori très éloigné à la fois géographiquement et culturellement de ce qu'a pu représenter Taylor Swift à ses débuts, eh bien comment ce public la célébrait, l'applaudissait, qu'est-ce qu'il lui trouvait d'une certaine manière. J'ai pu parler avec des gens qui venaient de Chine, de Malaisie, des Philippines, d'Indonésie, du Vietnam. Tout le sud-est asiatique, d'une certaine manière, était représenté. Et je dois dire que j'étais assez surpris. Ce qui m'a surpris, c'est déjà de voir des gens très différents les uns des autres. On avait beaucoup de femmes, à peu près de tous les âges, de toutes les générations, des fillettes, hein, vraiment des petites filles, avec souvent leur maman ou parfois leurs grands-parents. Il y avait aussi pas mal de jeunes garçons qui venaient souvent en groupe. Il y avait des couples et puis les vêtements. C'est-à-dire qu'on s'habillait, c'est un peu comme aller au carnaval ou aller à Halloween ou à Euro Disney. Tout le monde était vraiment vêtu à la gloire, en hommage à un album de Taylor Swift. Alors, il y avait pas mal de jeunes filles qui étaient voilées, mais qui, au-dessus de leur voile, portaient des paillettes, par exemple, ou des habits très brillants. Et donc, c'est un contraste vraiment auquel je ne m'attendais pas. Deuxième point, c'est que le concert m'a impressionné par sa durée. Ça commence à 19h, ça se finit à 22h30. Donc on a 3h30 de show, de spectacle. C'est assez inhabituel, même sur des vedettes de cette envergure. Le seul qui rivalise un peu en termes de durée avec Taylor Swift, c'est Bruce Springsteen, qui peut lui aussi dépasser les 3h sur des concerts en stade. Mais il a un répertoire quand même plus long. Il a le double de son âge, Bruce Springsteen. Et cette manière, voilà, de jouer avec le temps, de s'en jouer, y compris lors de ses spectacles, ça m'a marqué.
Bonjour Aureliano.
Bonjour Cyrielle.
Alors Taylor Swift va entamer ce 9 mai à Paris la séquence européenne de sa tournée de concert qu'elle joue depuis plusieurs mois à guichet fermé dans plusieurs pays du monde. On parle beaucoup d'elle dans les médias depuis quelques temps et cette visibilité, elle est montée d'un cran en France il y a un an, particulièrement en 2023. Cette année-là, elle a régulièrement fait la une des journaux au point qu'il est devenu difficile de ne pas savoir qui elle est même quand on n'est pas passionné de musique pop. Alors, pourquoi est-ce que 2023 a été un tel point de bascule dans sa carrière ?
Pour être précis, cette séquence, elle commence vraiment fin 2022, au moment où sort son 10e album qui s'appelle Midnights. Et dans la foulée, elle annonce qu'elle va faire une tournée mondiale. C'est le fameux Eras Tour.
Good morning, America. It's Taylor.
Bonjour l'Amérique, c'est Taylor. Je veux vous dire une chose dont j'ai hâte de vous parler depuis très longtemps. J'ai préparé ça depuis un moment et je peux enfin vous dire que je pars de nouveau en tournée. La tournée s'appelle The Eras Tour et ce sera un voyage à travers toutes les époques musicales de ma carrière.
Et en fait, ça faisait un certain temps qu'elle n'avait pas tourné à travers le monde à cause du Covid. Elle a été active pendant la pandémie, elle a sorti plusieurs albums, des réenregistrements et des albums originaux. Et donc, elle a occupé le terrain d'une certaine manière et tout était réuni finalement en 2023, ce soit son année. Elle est d'ailleurs élue personnalité de l'année par le très sérieux magazine Time.
Et comment est-ce qu'elle s'est passée cette tournée? Quand est-ce qu'elle a commencé?
Elle débute aux États-Unis en mars 2023 et elle se terminera à la fin de cette année, donc en décembre 2024 au Canada. En tout, elle aura fait 152 concerts dans 20 pays. C'est absolument inédit. C'est la tournée la plus lucrative de l'histoire. Et certains pays se sont vraiment déchirés pour qu'elle elle vienne chez eux. On a beaucoup parlé notamment de Singapour qui a offert 3 millions d'euros selon l'entourage de certains hommes politiques asiatiques, pour qu'elle vienne jouer en exclusivité à Singapour. Alors cette tournée, elle s'appelle Eras Tour, et l'idée, Eras, ça veut dire air, les airs, E-R-E, et l'idée, c'est de célébrer finalement toutes les périodes, toutes les époques de sa carrière, parce qu'on le verra, Taylor Swift, en fait, elle a souvent changé de style. Ça lui a permis de toucher des publics assez différents. Et ça, finalement, dès son lancement aux États-Unis, la tournée s'annonce comme celle de tous les records.
Et il s'est avéré que justement, cette tournée a été la tournée de tous les records. Pourquoi ?
Déjà, l'aspect économique. Les retombées économiques sont très importantes. D'après un rapport de la Réserve fédérale des États-Unis, le Eras Tour, il a eu un effet très positif sur l'économie américaine. À chaque passage dans une ville, des milliers de femmes débarquent. Les hôtels se remplissent, les restos, les magasins. D'un point de vue plus artistique, dès les premières dates, on voit tourner sur les réseaux sociaux des extraits des concerts qui deviennent viraux. Et ça, ça va amplifier vraiment l'aspect inédit de cette tournée. C'est-à-dire que les réseaux sociaux jouent vraiment leur rôle d'amplificateur, de rampe de lancement dès le début. Et finalement, tout ça est couronné en octobre 2023 avec un film. C'est la version cinématographique du concert. Et ce film, il cartonne avec plus de 260 millions de dollars au box-office mondial. C'est finalement le film de concert le plus lucratif, celui qui rapporte le plus de l'histoire.
Aureliano, on va maintenant essayer de comprendre comment Taylor Swift a réussi à atteindre un tel degré de popularité en près de 20 ans de carrière aux États-Unis et dans de nombreux autres pays. Et pour commencer, est-ce qu'on peut parler de ses tout débuts ? D'où vient-elle ?
Elle est née en Pennsylvanie, donc au nord-est des États-Unis. Elle est née en 1989, c'est une date qu'on retrouvera dans le titre de son album le plus vendu jusqu'au dernier. Et cette famille, c'est une famille plutôt aisée, famille de banquiers sur plusieurs générations, des gens qui travaillent dans la finance, dans la banque, ce qui permet d'une certaine manière, notamment à ses parents, à son père, de bouger, de se déplacer. On est mobile et si un projet le justifie, un projet professionnel ou un projet aussi familial, on peut déménager sans encombre. C'est ce qui va se passer en fait pour la famille Swift. Quand elle est en Pennsylvanie, il y a quelque chose d'assez assez rigolo, en tout cas anecdotique, mais qui fonctionne assez bien quand on connaît la suite de son parcours, c'est qu'elle elle grandit dans une ferme de sapins de Noël. Alors il y a toute cette dimension un peu féerique dans le succès et dans la carrière de Taylor Swift. Et voilà, elle grandit au milieu des sapins de Noël. Et d'ailleurs, le motif de l'arbre, des arbres, va vraiment traverser sa discographie.
Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une certaine fibre artistique dans sa famille ?
Totalement. C'est à chercher surtout du côté de sa grand-mère, qui était une chanteuse d'opéra assez populaire aux États-Unis. Elle participait à des programmes de télévision pour populariser ce genre musical. Taylor Swift, elle cite d'ailleurs littéralement sa grand-mère sur une chanson qui s'appelle Marjorie, où on entend une aria interprétée par sa mamie en arrière-fond. C'est donc un héritage qu'elle revendique totalement, qu'elle assume.
Et quand est-ce qu'elle commence à s'intéresser sérieusement à la musique ?
Elle écrit très jeune, encore enfant, des poèmes, des chansons. Et il y a un genre en particulier qui va la faire vibrer, c'est la country. Alors, ça peut nous sembler un peu étrange pour ceux qui ont une image voilà, poussiéreuse de ce genre musical. Il faut se souvenir qu'au début des années 2000, il y a une sorte de ce qu'on appelle un revival pour la country qui se cristallise notamment autour de la figure de Johnny Cash. Il y a un biopic, vous en souvenez peut-être, avec Joaquin Phoenix qui a un grand succès à cette époque-là. Lui-même, peu avant sa mort, il enregistre des disques vraiment salués par, à la fois par la critique et par le public, des disques un peu testamentaires. Et Taylor Swift, elle grandit donc à une période où finalement la country redevient populaire, ou en tout cas bénéficie voilà, d'un retour en grâce. Et là, elle va jusqu'à demander, en fait, Taylor Swift, à ses parents de déménager dans la capitale de la country, Nashville.
Parce que c'est à Nashville, qui est donc la capitale de l'État du Tennessee, dans le sud des États-Unis, qu'il faut aller pour percer dans la musique country.
Ouais, c'est un peu le Hollywood de la country, Nashville. C'est là que sont situés les studios d'enregistrement. C'est là que sont basés aussi certains labels, d'une certaine manière, toute la filière du métier. Alors, comme ses parents, on l'a dit, travaillent dans la banque, ils acceptent d'une certaine manière de déménager. Ils s'installent dans la banlieue de Nashville. Elle a 14 ans et là, tout s'accélère. Elle est d'abord signée par un gros label, hein, RCA, qu'elle quitte pour rejoindre un label un peu plus modeste qui s'appelle Big Machine Records, qui est fondé par un certain Scott Borchetta. On reparlera de ce monsieur qui aura voilà, un rôle dans la carrière de Taylor Swift. Son premier album, elle le sort à 16 ans. Il s'appelle Taylor Swift. C'était donc il y a 18 ans. He said the way my blue eyes shined, put those Georgia stars to shame that night. I said that's a lie. Alors, qu'est-ce qu'elle raconte, Taylor Swift, quand elle a 16 ans? Des histoires d'amour assez classiques, les fameuses amours de lycée, hein, de high school romance. L'idée que, voilà, il y a les filles populaires, celles qui le sont moins, le prince charmant qui a parfois les traits d'un athlète de football américain, les mecs cool. Et ça marche plutôt bien, dans un circuit, il faut le dire, relativement restreint, qui est celui de la country, mais voilà, il y a des fans en tout cas qui commencent déjà à s'identifier à ce côté fille normale. Et finalement, il y a deux autres albums qui vont suivre, un peu dans la même veine, avec un succès croissant, mais là toujours plutôt dans le circuit country.
Donc Taylor Swift commence sa carrière de chanteuse, autrice et compositrice dès son adolescence. Et ses trois premiers albums, qui sont très ancrés, hein, on l'a dit, dans un style country, ne sont pas de grands succès en dehors de cette communauté country américaine. Mais c'est pourtant grâce à un des singles de ses albums qu'elle se fera connaître dans le monde entier, et ça se passera un peu malgré elle. Est-ce que tu peux revenir sur cette séquence qui a été très médiatisée ?
En fait, on est en 2009. Elle vient de sortir son deuxième album, Fearless. Et il y a une des chansons de cet album, You Belong With Me, qui est nommée aux MTV Music Awards dans la catégorie meilleure vidéo féminine. Elle remporte le prix. C'est un peu une surprise, il faut le dire, parce qu'elle a face à elle des stars internationales, Beyoncé, Lady Gaga, Katy Perry. Et là, incident, grand malaise. Le rappeur Kanye West, qui est déjà une superstar à l'époque, monte sur scène, il l'interrompt dans son discours pour dire qu'elle ne mérite pas ce prix. Selon lui, il aurait dû être accordé à Beyoncé. But Beyoncé had one of the best videos of all time. One of the best videos of all time. Tout le monde est gêné dans la salle. Taylor Swift, elle est plantée sur scène, elle est mortifiée. Il va s'en suivre un très long bad buzz sur cet incident qui fera parler pendant des années, en fait.
Et pourquoi est-ce qu'on a continué à en parler bien après la fin de la cérémonie en question ?
Alors, on est déjà dans l'ère numérique. Et donc, cette vidéo de l'incident, elle va bientôt faire le tour du monde. Elle devient virale, ça sera même un mème d'une certaine manière. Beaucoup se mettent à connaître Taylor Swift, à s'intéresser plus à elle, grâce, en tout cas à travers ou à cause de cet incident. D'autant que Kanye West et son épouse de l'époque, Kim Kardashian, ils vont continuer, d'une certaine manière, ils vont nourrir la polémique, ils vont l'attiser. Et ça va prendre des proportions assez graves dans la mesure où voilà, la fanbase de Kanye West va, par un effet de meute, harceler Taylor Swift en ligne. C'est quelque chose qu'elle va évoquer, notamment dans un documentaire qui est disponible sur Netflix, Miss Americana.
Et c'est donc après cet incident et à ce moment-là de sa carrière que Taylor Swift prend un autre tournant musical, c'est ça ?
Oui, en 2012, elle sort un album très différent des précédents qui s'appelle Red, Rouge. Elle sort en fait du carcan country, elle se tourne vers quelque chose de plus pop. Et c'est notamment visible à travers la présence d'un musicien, un producteur qui s'appelle Max Martin, qui est déjà très célèbre, c'est une sorte de faiseur de tubes. Et il officie sur certains morceaux, et ça se sent, ça s'entend. Le virage qu'elle prend lui réussit. Elle garde d'une certaine manière sa fanbase country, mais elle conquiert de nouveaux auditeurs. Et ça va s'amplifier avec l'album suivant, 1989, qui sort en 2014. Et là, c'est vraiment l'album de la consécration qui lui ouvre un public en Europe et notamment en France. Il y a un single qui est vraiment représentatif de cette nouvelle veine et qui s'appelle Shake It Off. Il y a moins de guitare, les rythmiques sont très mises en avant et les mélodies sont imparables. À la suite de 1989, qui est voilà un peu l'album de la consécration, elle va pourtant disparaître pendant près d'un an. Elle l'expliquera ensuite pas du fait de ce harcèlement en ligne dont elle est victime. Et finalement, sa réponse va être en 2017, l'album Reputation, qui revient à sa manière sur ces incidents. L'album est un succès, de même que celui qui lui fait suite, Lover. Là, on est vraiment sur une synthèse tout à fait réussie entre des sonorités très pop et quelque chose de plus classique avec des éléments soit country, soit folk, qui restent présents, mais plutôt en arrière-fond.
Et c'est donc après la sortie de son album Lover qu'elle devait faire une grande tournée mondiale qui a été annulée en 2020 à cause du Covid et du confinement, tu nous le disais au début de cet épisode. Pendant cette période, de nombreuses industries, dont l'industrie musicale, ont été à l'arrêt. Comment est-ce que Taylor Swift a vécu ce moment ?
Elle enregistre deux albums chez elle, dans son studio, son home studio, comme on dit, et elle les publie presque instantanément. C'est un tour de force. C'est finalement, avec Dua Lipa et une poignée d'autres, l'une des seules artistes à sortir autant de musique pendant la période. Le son est beaucoup plus folk, nourri de ce style rock indépendant dont son producteur, Jake Antonoff, est l'une des figures de proue. Lui, il vient du New Jersey. C'est un état assez prolétaire. C'est, vous savez, l'état des Sopranos, mais aussi celui de Bruce Springsteen. Et son style, c'est vraiment de mettre en avant les histoires, le storytelling. Springsteen est très fort pour ça. Et là, on note dans la manière d'écrire de Taylor Swift un virage peut-être un peu moins personnel. Elle se raconte moins elle-même, elle raconte plus les autres.
Après les albums Folklore et Evermore qu'elle a sortis pendant le confinement, elle sort fin 2022 Midnight, dont on a parlé au début de cet épisode. Et le 19 avril dernier, elle sort son 11e album alors qu'elle est en pleine tournée dans le monde entier. Et cet album, c'est un double album de 31 titres qui s'appelle The Tortured Poet Department, qu'on peut traduire par le département des poètes torturés. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ?
Oui, 31 titres. Au départ, il y en avait 15 qui avaient été annoncés. Finalement, il y en a le double. D'ailleurs, c'est peut-être un des défauts de cet album. Il est un peu long, il y a des longueurs. Pas énormément de nouveautés, à la fois musicales et même dans les thèmes abordés. On est finalement sur un terrain assez balisé, assez connu, en ressassant beaucoup les disputes avec des ex. Rien de très neuf de ce point de vue-là, et musicalement, on est dans une forme de synthèse entre la période folk de Folklore Evermore et la période un petit peu plus électronique de Midnights.
Alors Aureliano, on a déroulé avec toi les principaux moments de la carrière de Taylor Swift. On est revenu sur ses origines, sur ses différents albums. Mais tout de même, après une telle tournée, The Eras Tour, sa popularité est sans précédent. Comment est-ce que tu l'expliques ? Comment est-ce que tu expliques cette popularité ?
Il y a un témoignage, moi, à Singapour, qui m'a marqué. C'est celui d'une vieille dame singapourienne, déguisée avec un chapeau country. Elle avait eu plein de paillettes. Et je lui pose à peu près la même question. Et elle me répond « she's relatable », c'est-à-dire qu'on peut s'identifier à elle. Et c'est vrai que c'est un peu la girl next door, la fille d'à côté, Taylor Swift. C'est pas quelqu'un qui chante particulièrement bien. Elle chante bien, mais on va dire sans plus. C'est pas Beyoncé ou Céline Dion. Sur les talents vocaux, elle ne danse pas particulièrement bien. Et d'ailleurs, elle en joue un peu. Elle ne fait pas peur. Il y a quelque chose de très rassurant, notamment pour les parents. Elle arrive après beaucoup de grandes vedettes, notamment féminines, transgressives, borderline, de Whitney Houston à Britney Spears. Taylor Swift, elle n'est pas dans cette lignée-là pour les parents et finalement pour beaucoup de monde. Elle inspire un sentiment assez positif, mais qui ne fait pas peur.
Mais derrière ce côté bienveillant et relatable, Taylor Swift, elle est aussi connue parce qu'elle sait se battre, notamment face à des géants de l'industrie musicale. Et ça contribue aussi à sa popularité. Est-ce que tu peux nous en parler, Aureliano ?
C'est quelqu'un qui a pris des risques pour défendre les droits des artistes et notamment leurs revenus. Elle l'a d'abord fait en s'attaquant à un géant aujourd'hui de l'industrie musicale, c'est Spotify. Elle avait retiré toutes ses chansons, tout son catalogue de la plateforme pour protester contre la faiblesse des revenus des artistes. Après un bras de fer assez long, très médiatisé, elle a remporté ce qu'on peut dire, on peut appeler une première manche, puisqu'elle considère que voilà, les revenus sont encore trop faibles, mais en tout cas, elle avait obtenu en partie gain de cause. Aujourd'hui, d'ailleurs, il y a un autre combat dont elle est aussi l'une des protagonistes, c'est contre TikTok. Alors, il y a un autre tour de force, d'un point de vue économique, c'est le réenregistrement de toute une partie de son catalogue, de certains de ses albums, ce qu'on appelle les Taylor's Version. Et ça, c'est inédit dans l'histoire de la musique enregistrée. Suite en fait à un désaccord avec Scott Borchetta, qui était le patron de la maison de disques qu'il avait signé à ses débuts, elle rompt avec lui et elle décide de réenregistrer tous les albums qu'elle avait enregistrés avec cet homme-là, sous sa férule d'une certaine manière. C'est impressionnant parce que ça marche, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les Taylor's Version sont celles qui font référence, y compris sur les plateformes, ce qui lui permet de redevenir totalement maîtresse en fait de ses droits, notamment des droits d'édition. Et l'édition aujourd'hui, c'est vraiment le nerf de la guerre dans l'industrie musicale. C'est par l'édition, c'est-à-dire par le catalogue, qu'on gagne le plus d'argent. Et là, Taylor Swift, elle est complètement dans son époque.
Et Aureliano, justement, pour terminer cet épisode, est-ce qu'on peut dire que cette influence gagnée au fil des années par Taylor Swift dans l'industrie musicale peut s'étendre aujourd'hui à la sphère politique, notamment à la veille des élections présidentielles américaines qui auront lieu en novembre prochain ? On sait qu'une éventuelle prise de position de sa part est très scrutée par les équipes des différents candidats.
Alors c'est vrai qu'on glosse beaucoup sur l'influence politique supposée de Taylor Swift. Pourquoi ? Parce que, comme on l'a dit, elle a grandi dans la country. La country est un genre dont le public est plutôt républicain, plutôt conservateur. Il y a des exceptions, mais voilà, son premier public, d'une certaine manière, est plutôt de droite. Au fur et à mesure de sa carrière, elle va évoluer, là aussi on l'a dit, et elle va toucher d'autres franges de la population, notamment américaine. Les jeunes en particulier. Et là, elle va se retrouver donc avec une vraie capacité d'influence. Dans un premier temps, elle va simplement appeler à voter en disant, voilà, c'est essentiel de voter, inscrivez-vous sur les listes, avec des effets conséquents. Mais progressivement, elle va préciser son soutien et elle va notamment appeler en 2020 à voter Joe Biden, ce qui va ulcérer Donald Trump, qui en a fait un peu sa bête noire. Mais ça dit bien, voilà, le pouvoir qu'elle a gagné en près de 20 ans de carrière, un de ses pouvoirs magiques, c'est aussi de pouvoir influer sur le cours politique de son pays.
Merci Aureliano.
Merci Cyrielle.
Et vous pourrez retrouver le portrait de Taylor Swift écrit par Aureliano Tonnet, ainsi que l'ensemble de nos autres articles et vidéos d'analyse sur le phénomène que représente la chanteuse Taylor Swift sur notre site lemonde.fr. Mais avant de nous quitter, un petit mot pour vous rappeler que nous existons grâce à votre soutien. Alors n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description ou à vous rendre sur abopodcast.lemonde.fr pour vous abonner au Monde et pouvoir accéder à l'ensemble de nos contenus. Merci de votre fidélité et à demain.